Internet Campagne. Bonjour, tenez, en ce jour des défunts, je vous fais partager cette citation de Jean Cocteau. Le vrai tombeau des morts, c'est le cœur des vivants. Tout est dit. En ce jour férié empreint de gravité, je ne vais pas vous soumettre une émission légère, mais j'espère une émission positive qui apporte des solutions à l'embauche des nombreuses personnes sans emploi. Au cours de cette semaine largement consacrée aux initiatives du département des Landes, nous y retournerons d'ailleurs tout à l'heure avec le jeu des 1000 euros, nous avons déjà évoqué la question du retour à l'emploi via des structures d'insertion et un accompagnement personnalisé porté par le département avec le Fonds social européen. Exemple, l'association intermédiaire AST, Association Solidarité Travail, créée en 1988 à Mont-de-Marsan et déployée maintenant à Saint-Sevé et Aire-sur-l'Adour. Comme son nom l'indique, elle fait l'intermédiaire entre les personnes qu'elle raccroche au train de l'emploi et les employeurs potentiels, collectivités, associations ou entreprises. Le site, c'est ast40.net. Mais nous allons pousser notre curiosité à un échelon supplémentaire aujourd'hui, échelon supplémentaire d'insertion avec les GEC, Groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Francis Lévy, secrétaire général de la Fédération française des GEC, est aujourd'hui à nos côtés à l'invitation du labo de l'ESS.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Francis Lévy, bonjour.
Bonjour Philippe.
Francis, nouveau secrétaire général de la Fédération française des GEC depuis le mois de décembre dernier. Les GEC, explication.
Alors les GEC, GEC ça veut dire Groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification, donc il faut expliquer en fait tous les mots. Ce sont des associations d'entreprises, donc des entreprises qui se regroupent pour répondre ensemble à leurs besoins de recrutement. Donc c'est une association qui est dirigée, pilotée par des entreprises, par les entreprises adhérentes, et qui va recruter des personnes, donc c'est l'association qui recrute des personnes éloignées de l'emploi, sur des contrats en alternance, pour répondre aux besoins de leurs entreprises adhérentes.
Pour le premier GEC en 1991.
Oui, absolument. Ouais. Donc l'idée des GEC vient du monde agricole. Alors il y a un peu de dispute entre le monde agricole et le bâtiment sur qui a eu le premier et qui a eu l'initiative. Mais en tout cas, c'est venu de groupements d'employeurs qui se sont dit on peut faire de l'insertion et de la formation dans des groupements d'employeurs, donc dans des associations d'entreprises.
Parce que il y a le groupement d'employeurs classique, il y a le groupement d'employeurs comme le vôtre, donc pour l'insertion et la qualification. Voilà, donc, entre les deux appellations, il y a une nuance?
Oui, absolument. Donc les GEC sont des groupements d'employeurs particuliers dont la vocation est particulière. La vocation des GEC, c'est vraiment de former et de qualifier pour insérer chez les entreprises adhérentes. Alors que le groupement d'employeurs a vocation à recruter sur des emplois pérennes et à mettre à disposition des adhérents. Donc on a vraiment une différence. Et en fait, l'appellation GEC est aujourd'hui reconnue par l'État depuis 2014. Et l'appellation est délivrée par une commission mixte dans laquelle il y a la Fédération des GEC et le ministère du Travail qui redélivre tous les ans l'appellation GEC au groupement. Donc en fait, il y a une démarche qualité en quelque sorte. Et on s'assure tous les ans que les GEC répondent à un certain nombre de valeurs qui sont le fait que ce soit bien les entreprises qui gouvernent et qui pilotent, qui s'adressent bien à des publics éloignés de l'emploi, qu'ils les qualifient bien et qu'ils les insèrent dans les entreprises. Voilà un peu ce qui est vérifié tous les ans.
Je suis très mauvais en calcul, Francis. 160 GEC labellisés.
Oui, 164 depuis la semaine dernière.
Oui. À chaque fois que je donne un chiffre, de toute façon, ça augmente. Et ça c'est un bon signe. Hein. 245 implantations en France.
Oui, en fait, beaucoup de GEC ont des antennes. Donc, en fait, le développement des GEC se fait au moins autant par le développement des GEC existants qui grandissent, qui créent des antennes, que par la création de nouvelles structures. Donc, on a vraiment les deux en parallèle. Et on a une croissance qui est assez régulière, depuis longtemps.
Et plus de 5700 entreprises adhérentes.
Voilà, c'est un réseau de près de 6000, si on veut, de près de 6000 adhérents. Donc, ce sont les entreprises, en fait, qui ont créé et qui adhèrent au groupement, auprès desquels les groupements, les GEC, mettent les personnels à disposition pendant les périodes de travail et qui ont vocation à les recruter à la sortie. Et ce sont elles qui assurent le pilotage du groupement. Ce qui fait aussi que par rapport à d'autres démarches d'insertion ou à d'autres types de structures d'insertion, la question du besoin de l'entreprise, en fait, il est posé dès le début. S'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de GEC. S'il n'y a pas de besoin d'entreprise, il n'y a pas de recrutement. Voilà, et donc ça fait une démarche qui est plus fluide et qui s'adapte, qui est beaucoup plus souple et qui s'adapte aux besoins des entreprises et également aux besoins des publics.
Ouais. Mais quel est l'intérêt d'une entreprise à adhérer à un groupement, à un GEC? Est-ce qu'il y a un intérêt financier, une aide? Parce que ça prend du temps Prendre en charge des personnes qui sont en insertion.
Alors, le GEC assure l'accompagnement et l'entreprise s'en remet un petit peu au GEC pour donc le sourcing, le recrutement et pour tout le suivi.
Le sourcing.
Oui, le sourcing, c'est-à-dire aller chercher des candidats. Voilà. donc, c'est le GEC qui assure ça, qui assure aussi toute la partie formation. Donc, l'entreprise n'a pas à organiser la formation. Après, les motivations des entreprises, elles sont de deux types. Il y a des besoins de main-d'œuvre. C'est souvent des entreprises qui ont du mal à recruter ou en tout cas, qui ne trouvent pas les personnes formées ou qualifiées qui répondent à leurs besoins. Donc, le GEC répond à ça. Mmh. Et puis aussi, il y a un engagement sociétal hein, de la part des entreprises. C'est souvent des dirigeants de PME qui sont, à titre personnel, très engagés dans ce type de démarche. Donc, il y a vraiment à la fois un aspect, j'allais dire, utilitaire. En tout cas, ça répond à un besoin d'entreprise. Puis, en même temps, il y a un engagement personnel des dirigeants.
Et combien de filières professionnelles sont représentées par les GEC?
Alors, il y a une douzaine de filières. Historiquement, c'est le bâtiment qui est le plus important, qui a été enfin vraiment le secteur qui a porté le développement des GEC. Aujourd'hui, le bâtiment représente encore à peu près 30%. Mais après, il y a un certain nombre d'autres secteurs qui arrivent juste derrière. Donc l'industrie, particulièrement la métallurgie dans l'industrie, la propreté, le transport, les services à la personne, l'agriculture encore. Voilà.
Donc c'est quand même une grande variété de métiers.
Oui, c'est une grande variété de métiers. En fait, c'est tous les... Enfin, pas tous, mais essentiellement des secteurs de main-d'œuvre sur des métiers plutôt techniques, hein, manuels, techniques. Mais c'est oui, c'est très varié, absolument.
Francis Lévy, secrétaire général de la Fédération française des GEC, invité des carnets de campagne, les GEC, groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Premier né en 1991, aujourd'hui 164 GEC existants. On cherche toujours la solution à la crise de l'emploi, parce que c'est redondant et on en parle régulièrement. Parfois, à tort et à travers, on oublie les métiers, on oublie l'aide, on oublie l'accompagnement, on oublie les contrats aidés, on oublie beaucoup de choses. Je trouve que vous avez, si vous n'êtes pas une roue de secours, vous, avec les GEC, vous êtes une vraie force de proposition. Qu'est-ce qu'il faut pour vous donner encore plus de souffle, plus d'amplitude?
Parlez de nous.
On tente de
voilà.
Le faire.
Oui. Et puis, avoir des politiques cohérentes. C'est-à-dire que le développement des GEC, c'est pas mettre de l'argent forcément, parce que il faut que des entreprises acceptent de se réunir. Donc c'est pas l'argent qui fait le moteur des GEC, c'est vraiment une dynamique. Il faut les convaincre. Par contre, les politiques d'emploi et de formation ont besoin de cohérence. C'est-à-dire que à partir du quand les pouvoirs publics décident d'un grand plan dans un secteur ou dans un autre, dans la formation, des emplois aidés, etc., ça déstabilise le système. Donc ce dont on a besoin, c'est de politiques cohérentes dans la durée et surtout qui mettent l'emploi en priorité. C'est-à-dire que nous, on pense que pour des personnes éloignées de l'emploi, que ce soit des jeunes ou des personnes qui n'ont pas travaillé depuis longtemps, c'est d'abord la mise en emploi, mais une mise en emploi accompagnée.
Oui,
une mise en emploi avec de la formation.
Oui, voilà,
c'est dans ce sens-là
que
ça marche.
Parce qu'on parle de qualification, on n'est pas uniquement sur un emploi, une case à remplir. On est aussi sur une orientation professionnelle avec une qualification,
absolument,
une professionnalisation et donc un métier à part entière.
Absolument. C'est pour ça qu'on utilise des contrats de travail en alternance, hein, des contrats de professionnalisation pour l'essentiel. Pour que ça marche, il faut qu'il y ait de l'emploi et de l'insertion professionnelle et il faut qu'il y ait de la qualification. Et il faut tenir les deux en même temps. Et c'est ça qui fait qu'on peut avoir une insertion durable et derrière une évolution dans l'emploi. Et puis tout ça, ça doit être accompagné. C'est ça qui fonctionne.
Et tout à l'heure, Francis, vous faisiez donc la différence avec la spécificité propre aux GEC, différence entre les GEC et les groupements d'employeurs. Par rapport à l'ensemble des structures, comme on les appelle, les SIAE, les structures d'insertion par l'activité économique, il y a un plus du côté des GEC, parce que finalement, sur les durées de contrat de travail, on est à peu près sur l'équivalent.
On est sur des durées moyennes d'un an,
oui,
à peu près.
Renouvelables.
Alors, en général, selon les secteurs, vous allez avoir des contrats entre 6 mois et 24 mois. La moyenne, c'est 12 mois. Parfois, c'est renouvelé, mais c'est pas majoritaire. Et si c'est renouvelé, c'est parce qu'il y a une préparation d'une qualification supérieure. Hein, c'est vraiment dans cette logique-là. Ce qui fait la différence, la première différence, c'est que ce sont les employeurs qui pilotent.
Et qui peuvent embaucher donc à l'issue.
Et qui embauchent à l'issue du parcours. Et ils sont là dès le début. Et donc ça, c'est une vraie différence. Hein, je pense que c'est peut-être la principale par rapport à d'autres dispositifs. Et ensuite, l'autre différence, c'est que c'est et insertion et qualification. On est en emploi et on forme et on qualifie. La spécificité des GEC, c'est vraiment ça. L'accompagnement, on n'est pas les seuls à le faire, bien évidemment. Mais par contre, peut-être une particularité sur l'accompagnement, c'est qu'il se fait vraiment en lien avec l'entreprise. L'entreprise étant adhérente du GEC, le GEC les connaît, a un lien étroit avec l'entreprise. Et donc, il y a vraiment un suivi de proximité, ce qui permet d'anticiper des difficultés, des problèmes relationnels, des problèmes de comportement dans l'entreprise, des incompréhensions, etc.
Et si on veut créer un GEC, on peut avoir des aides financières?
Alors, il y a des aides, en fait, pour les études préalables. En général, soit l'État, soit les régions aident l'étude préalable au GEC. Après, à partir du moment où on est GEC, il y a un modèle économique, hein, et le GEC fonctionne pour l'essentiel avec les financements des entreprises, c'est-à-dire que le GEC facture aux entreprises le temps de mise à disposition, et avec les fonds de la formation professionnelle, puisque ce sont des contrats de professionnalisation, donc c'est les EPCA, hein, les organismes qui collectent les fonds de formation, qui financent. Il y a un tout petit peu d'aide publique, mais c'est extrêmement minime.
Vous voulez dire insuffisant?
On court pas après. On voudrait que ça soit stable, régulier, sécurisé. Ça représente 3 à 5% du budget, du coût d'un parcours. Donc voilà, c'est les entreprises qui financent ou les fonds de la formation qui sont de manière différée des fonds des entreprises aussi.
Vous avez dit, Francis, tout à l'heure, en ouverture à peu près 6000 entreprises. Ça donne quel nombre de personnes en parcours?
C'est un peu plus de 10 000 personnes tous les ans. Mmh. Et c'est près de 70% d'accès à l'emploi à l'issue des parcours.
Donc un bon résultat.
Donc plutôt un bon résultat, oui, absolument.
Et vous proposez une boîte à outils pour les employeurs intéressés?
Alors, on propose, nous, on accompagne la création de structures, hein, c'est-à-dire que pour créer un GEC, il faut souvent un porteur de projet, donc c'est une organisation professionnelle, c'est une collectivité locale, c'est très variable, qui va mobiliser des entreprises autour du projet. Et à partir du moment où on entame cette démarche-là, nous, on intervient, on a un certain nombre d'outils, de statuts types, d'outils de gestion qu'on met à leur disposition. Et ensuite, on accompagne aussi les GEC pendant toute la vie des structures. Au-delà du label annuel, on a des contacts réguliers avec eux pour les aider à gérer leur croissance, leurs difficultés, les aléas de la vie de ces organisations.
Et nos voisins européens ont un équivalent?
Alors, on sait qu'il y a certains pays qui ont des formes de groupements d'employeurs, en tout cas qui s'en rapprochent. Des GEC, je n'en connais pas. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, parce qu'on n'a pas, regardé.
L'adresse est très simple, l'adresse internet, c'est les GEC. Alors, évidemment, l'article GEC, G-E-I-Q, pour groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification, .fr, tout simplement. Absolument. Merci Francis Evie.
Merci Philippe.
Et puis je ne vous ai pas donné aussi l'adresse du labo de l'ESS avec lequel on a organisé ce rendez-vous. C'est lelabo-ess.org, des adresses qui évidemment figurent à nos pages d'émission, franceinter.fr, à page Facebook. D'un côté, il y a les initiatives pour aider les personnes à retrouver un emploi. Et puis d'un autre côté, il y a des lieux de travail innovants. Aujourd'hui, c'est un coup de pouce que je vous soumets pour un laboratoire de travail de demain. Le laboratoire du travail de demain à Belbereau, commune de 1400 habitants à 15 kilomètres au sud-est de Toulouse. Ce laboratoire veut réunir sur un même terrain un champ de production et des bureaux de travail, une sorte de tiers-lieu mi-ferme, mi-bureau. Son but est de repenser le travail qui subit un total bouleversement en ce moment. Le projet est en cours de montage. Il va comprendre une micro-ferme maraîchère en permaculture, un espace test agricole pour accueillir les candidats à la production agricole ou agroécologique, un espace de bureau partagé et une table d'hôtes zéro déchet. Ce projet a pris pour nom le centième singe, en référence à une théorie développée par des scientifiques dans les années 50 sur des macaques du Japon. En les observant, ils ont fait ressortir que la communauté de macaques adoptait en général un nouveau comportement au 99e individu ayant suivi donc un nouveau geste ou une nouvelle pratique. Le centième singe donc est porté par 11 travailleurs d'horizons variés, des télétravailleurs, des salariés classiques, des maraîchers et des entrepreneurs. Un élan citoyen est né autour de cette démarche avec un millier de personnes à suivre l'actualité du collectif et jusqu'au 21 novembre, celui-ci fait tourner une campagne de financement participatif pour que ce lieu d'invention du travail de demain puisse voir le jour. Si vous souhaitez participer à ce coup de pouce, le lien est le suivant. Alors vous allez sur la plateforme Ulule, hein, ulule.com, et c'est donc le centième singe. Là aussi, c'est une adresse qui s'affiche à nos pages d'émission. Demain, on revient aux Landes avec la Petita Moleta, une brasserie associative locavore, et puis la communauté de producteurs Tosiette Enco. Et puis je vous rappelle, le mois prochain, nous allons traverser, enfin ce mois-ci, puisqu'on entame le mois de novembre, la Nièvre, la Côte d'Or, la Haute-Saône et l'Aveyron.